Vous écoutez
RMC.
Bon, les gars, on va parler évidemment de votre Coupe du Monde à tous les deux, mais faut qu'on démarre sur le match quand même, qui vient de se terminer exactement. Et on a nos deux spécialistes allemands et espagnols qui sont là. Fred Hermel est là. Fredo, bonsoir.
Hola, chicos.
Et Paulo Breitner. Paulo, bonsoir.
Rebonsoir, mon cher Gilbert. Bonsoir, tout le monde.
Bonsoir.
Coach Courbis disait à un quart d'heure de la fin, attention, un Allemand ne baisse jamais les bras ou les armes, ou un Allemand n'est jamais mort, disait coach Courbis, ce qui s'est confirmé, mon cher Polo.
Ouais, enfin, il y a surtout un choix tactique fait par Hansi Flick qui est étonnant et extraordinaire. C'est-à-dire que, alors que Goretzka et Kimmich ont un carton jaune, tous les deux pris à l'heure de jeu, et où là où l'Allemagne d'ailleurs est en train de craquer et se prend le premier but, il décide de mettre le bloc Bayern, son Bayern à lui, celui de Lewandowski, et Lewandowski, on n'en a pas, donc on met Füllkrug, on fait rentrer Leroy Sané, on fait sortir Gundogan qui n'a pas de carton pour garder les 2-6 qui ont un carton jaune. Donc c'est une prise de risque extraordinaire par rapport à la philosophie, et ça paye. C'est-à-dire que c'est quand même un truc. Je sais que moi j'aurais jamais pu faire ça. C'est-à-dire j'aurais été à la place d'Hansi Flick. Je dis, je sors. Qu'est-ce que je fais, Goretzka ou Kimmich? Parce que ça va sauter au bout d'un moment. Parce que faut être réaliste sur l'ensemble de la rencontre. L'Espagne mérite la victoire, et largement. Donc ce qui se passe, et Hansi Flick qui décide de mettre son bloc Bayern, de mettre son Bayern victorieux de la Ligue des Champions 2020. Et puis il va falloir parler de Moussiala quand même, s'il a 19 ans le gamin, hein. Faut voir la prestation qu'il fait. C'est assez extraordinaire dans la logique de prise de risque.
Et dans cette prise de risque, il y a quelque chose que tu voulais depuis pas mal de temps, c'est-à-dire qu'on mette une vraie pointe.
Ah bah oui. Bah alors le problème, c'est que
c'est lui, parce que tu nous en avais parlé de ce joueur-là, même s'il n'est pas connu du grand public.
Apollo nous a tout dit sur Füllkrug.
Il a mis une sacoche de dingue qui a dû te faire plaisir, parce que des sacoches à l'allemande comme ça, c'est un petit moment qu'on n'en avait pas vu.
Voilà, sur France 2.
La question qui se pose, c'est d'abord, est-ce que enfin il va le faire, donc Flick, il va passer au neuf, et est-ce qu'il va oser sortir Thomas Müller? Parce que très franchement,
il est pas là.
J'ai envie de dire qu'il faut, quoi.
Attention, parce que Polo, on peut quand même dire que Thomas Müller est également bien meilleur avec un avant-centre.
C'est vrai aussi, tu as raison de le dire, Kevin. Donc il va y avoir un vrai choix là.
On peut aussi imaginer une full Bayern pour le coup, avec Müller en soutien de maintenant. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera le Bayern, puisque t'as Gnabry, Moussiala, Sané avec Goretzka et Kimmich. Et moi, j'étais plutôt d'accord avec Hansi Flick de sortir Gundogan, qui est un excellent et un beau joueur de foot, mais qui n'a pas l'intensité nécessaire pour jouer dans le mode
Bayern.
C'est
pas faux, ça.
Ouais, c'est vrai. On est d'accord, mais c'est quand même, enfin, la prise de risque, elle est extraordinaire. Ouais. Il faut vraiment que les auditeurs comprennent. Enfin, c'est un
après,
coup de poker,
il fallait bien faire quelque chose, Polo. Moi, je suis d'accord de souligner ça, mais à un moment, il fallait quand même y aller, quoi.
Alors, pour le cas de Thomas Müller. Déjà, rappelons qu'il est arrivé sans jouer certains matchs avant la Coupe du Monde, parce qu'il était blessé. Et donc, même en Allemagne, Stefan Effenberg avait se posé la question si Thomas Müller n'allait pas devenir un problème pour la sélection. Et depuis le début de l'année, même un peu l'année dernière, on se posait la question, quand est-ce que la transition entre Moussiala et Thomas Müller va arriver? Mais quand on voit le niveau du gamin à 19 ans, on a le droit de se poser la question si l'Allemagne n'a pas tout simplement son numéro 10, qui est Moussiala, et qu'ensuite tu décides de mettre Leroy Sané à gauche s'il est à 100%, évidemment. Tu peux mettre Gnabry à droite. Et il y a une autre personne qui n'était pas sur le terrain aujourd'hui, c'est Kai Havertz, qui est le grand perdant quand même de ce, parce qu'il est même pas rentré. Donc c'est quand même le grand perdant de ce qu'on attendait un petit peu, c'est-à-dire est-ce qu'on mettait Gnabry, est-ce qu'on mettait Havertz en faux neuf, etc. Donc encore une fois, l'Allemagne n'est pas morte, c'est déjà une grande nouvelle. Je pense qu'on peut même envisager que
finalement elle s'en sorte quand même.
Elle s'en sorte, et qu'elle puisse même faire peut-être un beau parcours, même s'il y a un gap très très important, je pense, avec certaines nations qui sont les favoris. Et dans les favoris, moi beaucoup parlé avec Fred, conséquence de l'Euro 2021, l'Espagne, j'avais dit, était en avance sur l'Allemagne. Un an et demi après, l'Espagne est toujours en avance sur l'Allemagne, parce qu'elle a ses références. Parce que je pense que je parle sous le contrôle de Fred, si les Espagnols ont envie de gagner ce match, s'ils ont envie de pousser, je pense que l'Allemagne explose. Parce que défensivement, franchement, Rüdiger, c'est pas le Rüdiger qu'on a vu. Zule, je sais pas où il est.
Rüdiger, il est remplaçant au Real, hein, tu sais.
Kerrer, ça a été pas trop mal. C'est quand même pas tout ce qu'il faut. Et Schlotterbeck qui est rentré la dernière. Heureusement qu'il est très critiqué en Allemagne, évidemment, parce qu'il est jeune, hein, suite à son match. Ouais, mais il nous fait encore des boulettes. Il est encore trop jeune. Faut le dépuceler, quoi. Non, mais c'est vrai. Et ils l'ont mis au poste
d'arrière. Est-ce que tu milites pour qu'il soit titulaire, finalement, le full Krug, là?
J'aimerais bien, parce que bon, déjà, c'est un mec, bon, je le connais depuis 10-15 ans en Allemagne, c'est ce que j'appelle un ennemi, tu sais, c'est ce genre de joueurs qui ont fait leur carrière en seconde, en première division, qui ont raté des occasions, etc.
Tu sais à qui me fait penser?
Vas-y.
À Steve Savidan.
C'est pas le même profil.
Non, mais c'est ce genre de gars un peu, tu vois, qui arrive un peu sur le tard, avec une gueule, avec un parcours un peu différent, tu vois, puis qui a une espèce de fraîcheur comme ça.
Mais oui, et puis en plus, il arrête pas de planter. Il y a deux ans, il était 19 buts en seconde division. Cette année, il monte, il en est 10. Il est meilleur buteur que meilleur buteur de la Bundesliga. Il met tout le temps, et c'est pareil.
Il a mis sa coche, il a décroché la lucarne.
Exactement, c'est ce qu'il fait tout le temps. Donc moi, je milite, oui, au moins un essai contre le Costa Rica, par exemple. Parce que ça peut débloquer l'équipe, si ça marche. Et après, on verra ce qui peut se passer.
Contre le Costa Rica, en espérant que l'Espagne fasse le taf, ou même si
en
ça
espérant,
fait nul,
parce qu'attention,
il faut que l'Allemagne.
L'Espagne veut sa première place, hein, donc.
Voilà. Donc l'Espagne, de toute façon, ils vont pas lâcher contre le Japon. C'est pas le style à la maison.
Non.
Et l'Allemagne avec un petit 2-0, ça passera tranquille.
Exactement.
Même un match 0 de l'Espagne. Il y a quand même un truc qui aurait pu arriver. On en parlait à la mi-temps avec Polo et Fred. C'est que si l'Allemagne perdait ce soir, il aurait pu avoir un petit arrangement en mode Allemagne-Autriche qui élimine l'Allemagne.
Mais il peut toujours y en avoir un. Il peut toujours y en avoir un, Gilbert. Si l'Espagne décide de perdre contre le Japon, l'Espagne est seconde.
L'Espagne,
c'est pas et elle sort
l'Espagne qui décide de perdre contre le Japon. Polo.
Alors, attends, il y a un truc quand même, c'est que les matchs pour le 8e vont se jouer avant, vont se jouer à 16h. Les matchs de la Belgique, la Croatie et le Maroc, possibles rivaux de l'Espagne.
Ah, donc on saura qui jouera le premier et le deuxième.
Non, exactement. Jamais les Espagnols ne font
pas. Non, mais ils vont pas le faire parce que c'est pas dans la mentalité espagnole et surtout pas celle de Luis Enrique.
Ils ont un jeu qui se développe.
Tu nous as pas raconté pendant 20 ans, toi, qu'il y avait les manettes qui circulaient quand il y avait les histoires de maintien et tout.
Ils ont un style de jeu qui est mis en place en permanence.
Non, toujours de la même façon. Je ne dis pas que les Espagnols, ils savent pas des fois s'arranger avec les maintien qu'ils ont envie.
Non, mais ils vont pas. J'imagine pas l'Espagne perdre contre le Japon le Maroc en 8e. Tu vois ce que je veux dire?
Surtout pas le Maroc.
Jamais personne ne fait ça.
Attention à Ito.
Donc Ito. Mais moi, je vais demander un truc à Apollo quand même. Il y a un truc qui m'a vraiment surpris. Et là où, pour moi, on a vu la plus grosse différence entre les deux équipes, ce sont les automatismes, en fait.
Ah bah bien sûr.
C'est-à-dire, c'est hallucinant. Parce que les Espagnols, le ballon, il allait toujours là où il devait aller. Il y avait très peu de pertes de balles, finalement. Sauf intervention de l'adversaire, mais ils sont là pour
exactement,
ça.
Exactement.
Mais l'Allemagne.
Oui, le Barça, tu peux le dire.
C'est le Barça qui jouait comme ça. On voyait très souvent le Barça. Mais l'Allemagne, en fait, par moments, on se disait, mais. Il se trouvait pas. Et on a même vu sur des copies arrêtées où les Allemands pouvaient être dangereux. Comment
il y a la confiance. Je pense que le match,
l'impression par moment.
Et puis il y a aussi, ils s'engueulent beaucoup sur le terrain. Je sais pas si vous avez vu.
Ah, beaucoup.
Rudiger qui se fait engueuler par Gundogan. Des joueurs qui montent pas sur les jeux.
Face à l'Espagne, ils te font tourner la tête, les Espagnols.
C'est extraordinaire.
Ils te rendent fou. Enfin, il faut quand même dire qu'on a vu un match qui est le plus beau depuis le début de la compétition.
Ouais, c'était bien. Ouais.
Et deux, une équipe espagnole qui, honnêtement, moi, me ravit.
C'est extraordinaire. L'Espagne, c'est extraordinaire. Enfin, le milieu de terrain allemand, c'est Gundogan, Kimmich, Goretzka. Ils ont rien.
À un moment, je ne voyais plus Kimmich. Et Kimmich, j'adore ce joueur.
Mais
où est Kimmich, quoi? À part courir, à faire les sugasses, à courir après, il ne pouvait plus rien faire, le pauvre Kimmich.
Moi, je pense que même Fred ne s'y attendait pas.
Ouais, il y a quand même un écart. Il y a quand même un écart énorme entre, par exemple, deux sélections qui se ressemblent en termes de profil et de qualité technique, que sont les Portugais et les Espagnols. C'est-à-dire que les Espagnols ont un sélectionneur et les Portugais ont un accompagnateur, quoi. C'est-à-dire que voilà, Fernando Santos, il sélectionne, allez, les meilleurs, et puis faites ce que vous voulez, en gros. Et alors que Luis Enrique, il y a une vraie philosophie. C'est Fred qui dit souvent que c'est lui la star de l'équipe, mais moi ça me pose pas de problème que l'entraîneur soit la star de l'équipe. À partir du moment où son équipe, elle a une idée de jeu et son équipe, elle a des principes qui sont bien définis avec et sans le ballon. Et l'Espagne, sans avoir des joueurs exceptionnels, s'appuie sur ce que sait faire l'Espagne, c'est-à-dire un peu la culture Barça. Et franchement, c'est beau à voir.
Il y avait beaucoup de joueurs du Barça ce soir, hein, quand même. Alors, simplement, s'il y a une chose qui m'inquiète au niveau de l'Espagne, ce soir,
oui,
c'est Rodri, défenseur central. Parce que c'est pas son poste. Et on a vu comment Moussiala l'a bouffé. Je ne sais pas si un vrai défenseur central se serait fait bouffer de la même manière sur le but allemand.
Je te rassure, hein, Zule, c'est un vrai défenseur central. Il n'inspire pas la confiance non plus.
Hein. Ouais. Non, mais tu as vu Rodri quand il s'est fait avoir par Moussa.
Il n'a pas mis en Espagne vraiment aujourd'hui.
Moi, je me demande si du côté espagnol de la droguerie, c'est sur le premier match, c'est Azpilicueta qui jouait à droite. Et je l'avais trouvé très bon et j'aime beaucoup Azpilicueta.
Carvajal. Ouais, pourquoi il avait joué? Parce que Carvajal avait la crève. Il était enrhumé à cause de l'air conditionné.
Moi, je ferais jouer Azpilicueta et pas Carvajal. Mais bon.
Ouais, mais bon, lui, on verra pour la suite de la compétition. Mais enfin, dans la tête de Luis Enrique, au départ, c'est Carvajal qui est titulaire. Ouais, il n'avait pas joué à cause de ce qu'on appelle une resfriado.
Et puis aujourd'hui, Azpilicueta, il est quand même bien meilleur dans un rôle en
trois
défenseurs.
C'est la team au Qatar, ça. On connaît.
Bah, non, mais c'est vrai. Non, mais il y a eu 7 Espagnols qui avaient eu le nez qui coule. Avant le premier match. Donc,
ouais, ça va, t'inquiète, ils sont en forme, ils ont bien couru, là.
Ah oui, non, tout va bien. Et puis après, alors, il y a en Espagne, là, les premiers commentaires. Bon, les gens sont contents, mais ils auraient quand même bien voulu gagner. Simplement, on regrette un peu les changements de Luis Enrique. Alors, à part Morata, bien sûr, annoncé à la mi-temps, je vais pas me mettre une petite médaille, mais c'était tellement un match pour Morata qu'il a été, d'ailleurs, il a été très important au niveau défensif. Vous avez vu que sur des corners ou sur des coups francs des Allemands, il a quand même pris pas mal de ballons de la tête et c'était quelque chose qui le, on sentait que Luis Enrique devait faire ça. Après son but, il est magnifique à l'extérieur, etc. Il est extraordinaire.
Par magnifique contre, le but, la façon de toucher la balle.
Ah ouais, non, mais ça, c'est merveilleux. La seule chose, les critiques sous en Espagne, c'est sur les changements, que Coque était totalement dépassé. Et que si à un moment les Espagnols ont commencé à perdre le ballon en fin de match, outre le regain allemand, c'est que Coque, il était un peu perdu, on savait pas ce qu'il faisait là. Très mauvaise entrée de Williams, voilà. Et que Baldé, par rapport à un Jordi Alba qui avait été excellent, a pas semblé au même niveau, quoi. Mais c'est vraiment pour vous dire des petites critiques
Fred,
qu'il y a du côté
des. Je peux faire une autre critique quand même.
Vas-y.
C'est que évidemment t'as la possession, t'as tout, mais il y a relativement peu d'occasions qui arrivent.
Ah, bien sûr.
Et c'est
il y a le côté pas tueur.
Mais oui. Ils ont quand même une barre avec un super arrêt de Neuer en tout début de match, là. Vous vous souvenez peut-être plus de celle-là.
Après, il y a l'occasion de la frappe au-dessus, là. Ouais.
Ils en ont quand même quelques-unes, les Espagnols.
Oui, ils en ont. Ouais, ouais.
Si. Et dis-moi,
oui,
Williams,
la première période, c'est largement en faveur de l'Espagne, même pendant une heure.
Large, oui.
Mais en les 20 dernières minutes, c'est-à-dire que Luis Enrique, en touchant un peu son équipe, elle était un peu moins performante et un peu moins de possession. Voilà, mais bon. Mais globalement, c'est plutôt pas mal pour l'Espagne. Après, moi, je pense sincèrement que vu le jeu de l'Espagne, il faut éviter pour elle la Croatie en huitième.
Et sur les Williams, moi, je suis étonné parce que j'ai l'impression que les Espagnols, ils ont pas pris le bon. Ils ont laissé le bon au Ghana.
Mais pourquoi bon. Parce que c'est les choix de Luis Enrique. Comme Iñaki Williams avait l'impression qu'il avait la crainte de ne pas jouer cette Coupe du Monde, il a choisi d'aller au Ghana, quoi. Donc, mais le meilleur, c'est bien entendu Iñaki. Mais ça, après, ce sont les choix de Luis Enrique. Et puis, ça, après, s'il va très loin cette Coupe du Monde, on dira qu'il a raison, quoi. Mais comme ce soir, le choix d'Asensio n'est qu'un remplaçant en Real. Et ce soir, il est encore très bon. C'est l'un des meilleurs Espagnols.
Luc, t'as regardé le match?
Évidemment. J'ai adoré, moi.
On était ensemble.
C'était un beau match, un très beau match. En plus, je trouve qu'avec la qualité des pelouses, ça magnifie des joueurs comme ceux qui peuvent y avoir en Espagne. Et c'est un régal. Le ballon va vite. Et moi, je me suis vraiment régalé sur ce match. Les Allemands n'ont rien lâché comme d'habitude, mais c'était pas évident parce qu'ils ont couru énormément. Donc, très très beau match, à mon avis.
Ah, tiens, pendant le match, on parlait, vous savez, le but de Rüdiger en jeu, là.
Oui.
Vous avez vu le départ du ballon?
C'est-à-dire
à 30 cm dehors du pied. Je te le dis, sur l'image
arrière. C'est-à-dire ils ont déclenché alors que le ballon avait déjà quitté le pied.
Ah oui, à chaque fois, c'est personne ne regarde ça. On l'a regardé avec Roland. Roland, il était choqué.
Oui, oui.
Ça, c'est pour Roland.
Ouais, faut y aller.
Tu peux mettre autant de lignes que tu veux, mais si au départ du ballon, il déclenche pas.
C'est ça le problème.
Est-ce qu'en Allemagne, on parle du
non, du alors moi, sur le moment, si Dieu, il y a tellement d'abus sur ces. Moi, je siffle pas ce genre de pénalty.
Mais est-ce qu'en Allemagne, on en parle, quoi? Parce que...
Non, on n'en parle pas, en fait. C'est y a pas le truc. Mais je pense que le match était d'un très, très haut niveau, qui annonce de très, très belles choses pour la suite de la compétition.
Ouais.
Et je pense que c'est un excellent.
Ces deux équipes-là doivent être en huitième. On veut les voir.
Vous savez qu'il y a on me signale un scénario. Si le Japon et le Costa Rica gagnent, l'Allemagne et l'Espagne sont éliminés.
Bah oui. Ce qui est logique.
Oui, ouais, d'accord, oui. Super.
Mais ça, c'est pas un scénario, sûr, ça, c'est
vraiment, c'est vraiment le truc, on s'y attend vraiment.
Ce qui est assez logique. S'ils gagnent, ils sont qualifiés.
Bah, vraiment, là, Gaël, je sais pas pourquoi, mais je vais pas retenir ce scénario.
T'as regardé, toi, Gaël ?
Ouais, j'ai regardé le match.
Et alors, t'en as pensé quoi ?
Le but de Rudiger refusé à limite. Après, l'Espagne aurait pu tuer le match avec Asensio qui met ce missile au-dessus.
Alors qu'en général, il aimait cela.
Exactement. Un peu comme Mbappé en première mi-temps hier.
J'ai regardé le match avec un ami espagnol, mon ami Rafa, qui me dit allez, pourquoi il a pas contrôlé, etc. Mais parce que c'est sa façon à lui. Il reprend très très bien de voler Asensio, surtout du pied gauche, quoi. Mais là-dessus, il a pas été. Le ballon est parti un peu trop haut.
On a Alcin au 32-16 qui est là, qui est supporter de l'Espagne. Bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Bonsoir. Ça va ?
Vous m'entendez, messieurs ?
Très bien, très bien.
Bonsoir à vous, messieurs. Je vois en plus qu'il y a un beau tour de table.
Et je suis
quand même à dire du bien de Damien Rizzo parce que je trouve qu'il a une bonne lecture du football. Il est assez pragmatique. Et félicitations à Daniel. Sinon, oui, j'ai regardé le match comme vous. Je vous ai aussi écouté. Oui, c'était un match plaisant, je suis d'accord. Au même titre que les matchs du Barça. Mais est-ce pour autant que l'Espagne est favorite pour le reste de la compétition ? Moi, je pense pas. Parce que le jeu de possession, à un moment donné, il va finir par montrer ses limites. Au même titre que le FC Barcelone, hein, dans l'équipe d'Espagne, on peut regarder, il y a Jordi Alba qui aujourd'hui est dépassé. Il y a Sergi
Busquets
qui est dépassé. Et oui, même s'ils ont fait un bon match, je ne le renie pas. Il y a Pedri, Gavi, Busquets. C'était un match Bayern-Barcelone avec les joueurs les plus talentueux qui étaient absents, comme Dembélé, Lewandowski. Le roi Sané, d'ailleurs, quand il
est. Et qu'est-ce que tu voudrais, en fait? Tu voudrais qu'il balance le ballon et qu'il dise aux autres, tenez, gardez-le?
Non, je dis pas ça. Je dis que l'Espagne, quand elle va rencontrer une équipe avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme, je pense qu'elle sera dépassée. Quand elle va rencontrer, par exemple, si elle rencontre l'équipe de France ou l'équipe du Brésil, où t'as des joueurs qui vont vite, comme Ousmane Dembélé, Vinicius, Kylian Mbappé, bah là, ça va être compliqué pour eux. Exactement comme le FC Barcelone.
Mais ce sera compliqué parce qu'il y aura des joueurs de qualité en face. Ce sera pas compliqué parce que l'Espagne
peut être fragile,
n'utilise pas le jeu qu'il faut. L'Espagne n'a pas en ce moment de crack de la trempe, je sais pas, d'un Mbappé ou des joueurs capables d'avoir des accélérations comme Vinicius peut-être. Ils ont à la place un jeu collectif qui est parfaitement huilé, qui est le plus beau des 32 équipes, avec des joueurs qui, Fred nous le dit souvent, soit sont pas toujours titulaires dans leur club, soit sont, on pense, je sais pas, même un Busquets, on pensait qu'il était presque un peu fatigué ou un peu plus vraiment dans le coup, alors qu'il continue d'orienter parfaitement le jeu de l'équipe. Donc ils magnifient tout ce qu'ils ont à disposition, quoi, et tout ce que Luis Enrique veut mettre en place. Ils pourraient pas faire autrement, finalement.
S'ils perdent contre
la France parce que ils ont la possession, mais que Mbappé leur met un contre, ils perdront contre une équipe qui a d'autres atouts. Comment veux-tu faire pour qu'ils fassent autrement, en fait?
Kevin, à ton tour. Attends, Alcin, c'est le tour de Kevin, là. Okay.
Et puis, de toute façon, Alcin, l'Espagne, ils sont plus du tout en mode Barça de Guardiola. Dès qu'ils peuvent jouer les transitions rapides avec Ferran Torres, notamment, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il fait rentrer Nico Williams ensuite en deuxième mi-temps, dès qu'ils peuvent jouer les transitions rapides, ils les jouent. Ils sont plus là à une position à outrance pour faire tourner l'adversaire et presque défendre avec le ballon, c'est plus du tout le cas.
Mais Kevin, attendez, c'est mon tour, Kevin. Qu'est-ce qu'avait fait Luis Enrique après la période Guardiola, Tito,
il avait changé,
etc. Il avait fait ça. Ouais. C'est-à-dire que c'était la base avec la possession, etc. Mais sans se priver de compte, sans se priver de jeu beaucoup plus vertical. C'est le Luis Enrique du Barça, qu'on voit ce soir.
Oui, d'accord.
Enfin, qu'on voit ce soir du monde. Donc c'est tout à fait logique.
Allez, Alcin, le mot de la fin pour toi, vas-y.
Là-dessus, monsieur, je suis d'accord avec vous, l'Espagne, elle a un beau jeu. Mais la question, c'était, est-ce que l'Espagne est favorite de la compétition comme le Brésil ou comme la France? Moi, je dis non. Pour moi, l'Espagne, elle joue très bien au football. Moi, je suis un fan du Barça. Le Barça joue très bien au football. Mais dès qu'elle va rencontrer des équipes avec une qualité supérieure à celle de l'Allemagne, parce que l'Allemagne aussi, si on regarde bien les joueurs, les mecs qui sont remplaçants Bayern, Gnabry, il est remplaçant, Mujala, il est remplaçant, quand Mané, Coman sont là et Leroy Sané, les mecs qui jouent pas, dès qu'elle va rencontrer une équipe offensive qui attaque, qui a des joueurs de qualité devant, je pense que l'Espagne va montrer toutes ses limites. Mais est-ce que l'Espagne, elle a un beau jeu? Oui, elle a un beau jeu, oui, elle joue très bien.
Mais Alcin, en fait, ce que tu veux dire, et là,
si ça t'arrange de les mettre troisième, je veux bien, mais moi, le jeu de savoir qui est favori, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout?
Non,
en fait.
Mais ce que veut dire Alcin, et là, je peux le rejoindre, c'est-à-dire que, donc, quand, dans un match ou un match très équilibré entre deux très bonnes sélections, dont l'Espagne. Il y a d'autres équipes qui ont l'élément différentiel qui pourra faire la différence. Et l'Espagne, on se dit qui va pouvoir prendre le ballon et faire un truc comme Mbappé ou comme quelqu'un d'autre. Voilà, tu vois. En Espagne, on voit pas trop ce joueur-là. C'est ça. C'est qu'au moment, si le collectif n'est pas capable de tuer l'adversaire, c'est pas individuellement que ça va se faire côté espagnol. Ça c'est clair.
Rien à rajouter, les gars. Polo, Fred,
ben, vous allez faire tour. Je vais refaire les valises.
Ouais, oui. Ah, t'en étais là quand même.
Voilà, j'ai demandé à Liliane de refaire les valises, hein, parce qu'on rentre à Paris.
Oui, là.
Georges Marchais, il a
pour les anciens.
La référence historique, évidemment.
Il a ressorti le pyjama.
Liliane, on rentre à Paris.
On rentre à Paris.
C'était Thierry Lelureau quand il imitait Georges Marchais, secrétaire général.
Tu sais où ils étaient d'ailleurs en vacances?
En Corse. Je me suis réveillé ce matin, j'ai ouvert la télé et là j'ai vu Mitterrand. C'est en train de
chez lui. Non, mais attends, il allait beaucoup. Il allait
Georges Marchais en vacances.
C'est en Roumanie, hein, Georges Marchais. Hein.
Bien sûr. Bah,
attends, attention.
Bah, écoute, il devait être bien reçu.
De toute façon, il n'a jamais jusqu'au bout critiqué le bloc de l'Est et relié le stalinisme. Jamais. Tout ça n'existait pas.
Ça n'existait pas.
Merci les gars.
Merci les amis.